Amen. Seigneur, je te prie que ce soit ta parole qui soit efficace dans nos cœurs, plus que la mienne, Seigneur. Je te remercie de l'utiliser. Je te prie, Seigneur, que je ne trahisse pas ta parole et que nous puissions être tous ouverts, réceptifs à ce que ton esprit veut maintenant déposer. Je te loue pour ce moment louange que l'on a vécu. Je te loue, Seigneur, parce que tu viens ouvrir nos cœurs pour y déposer ta vie. Amen. Danilo, tu pourrais remettre l'image que tu as mise pendant le chant Majesté. Voilà un beau chemin. Un chemin qui parcourt la terre. On voit de la verdure, on voit de l'eau. C'est un chemin qui parcourt la vie, un chemin de vie. Et qui arrive à des habitations. On pourrait dire que c'est comme un déploiement de vie. Et le Seigneur veut que nous empruntions un chemin de vie. La Suisse, elle est reconnue pour beaucoup de valeurs. Puis notamment, il y a la valeur de la neutralité. Et avec cette valeur-là, la Suisse, elle a, par exemple, un savoir-faire diplomatique qui est bienvenu dans nombre de situations. Mais il y a des situations où on ne peut pas être neutre. Et c'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'est ce choix devant lequel, notamment, Moïse a placé Israël, juste avant de mourir. Tout à la fin d'un discours, le dernier qu'il a eu envers Israël. Et je voudrais revenir sur ces cinq versets, ces cinq derniers versets qu'on trouve dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30. Et je vais refaire la lecture de ces versets. Donc effectivement, la prédication la semaine dernière, c'était « Vivre est un choix ». Et c'est ce que Dieu nous dit au travers de Moïse. Dans ces versets, Deutéronome 30, à partir du verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas entrer, pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer pour en prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà donc une parole adressée à Israël qui le place devant ce choix de vivre ou de mourir, Dieu venant lui dire « mais choisis la vie ». C'est-à-dire que Dieu ordonne la vie. C'est un ordre de vie. C'est un ordre de vie dans lequel on a le choix, mais c'est un ordre de vie. Et tous les commandements de Dieu sont des ordres de vie. Mais cet ordre de vie-là que l'on lit, c'est un ordre de vie en lui-même qui est à la base de tout les ordres de vie de Dieu. Tous les commandements de Dieu, soit je choisis de les suivre et je vais vers la vie, soit je choisis de ne pas les suivre et je suis sur un chemin de mort. Et cet ordre de vie en particulier qui est à la base de tous les commandements de Dieu, on le rencontre tous. On le rencontre tous dès le début de notre existence et on va le rencontrer tout au long de notre trajet. On aura à se positionner pour la vie à choisir entre la mort et la vie. Et là, il n'y a pas de neutralité. Je suis désolé pour la Suisse. Il n'y a pas de neutralité. Si je ne choisis pas la vie, je suis dans la mort. Et si je choisis la vie, je ne suis pas dans la mort. Il n'y a pas de zone grise. C'est l'un ou l'autre. Mais en même temps, nous sommes encouragés à choisir la vie et le fait est que tous ne choisissent pas Jésus. Tous ne choisissent pas la vie. On le voit autour de nous. Et le fait est que même quand on a choisi Jésus, il y a des choses dans nos vies où on peut être encore sur des chemins de mort. Parce que cette mort dont on parle, ce n'est pas le terme physique de la vie. Cette mort dont on parle ici, c'est tout ce qui vient bloquer la vie. C'est tout ce qui empêche le déploiement de la vie. Et combien il y a de situations dans nos vies où la vie, elle est bloquée. Où il y a comme quelque chose qui empêche cette vie de Dieu de se déployer. Et ça, c'est un chemin de mort. Alors, mais qu'est-ce qui nous pousse sur ces chemins de mort? Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve sur ces chemins de mort? Et quand on a compris ça, comment faire demi-tour et comment se réengager dans la vie? En d'autres termes, comment choisir la vie? Dimanche dernier, c'était « Vivre est un choix », ce matin, ce sera « Choisir la vie ». Donc, comment nous retrouve-t-on? Comment on se retrouve sur des chemins de mort? Si on reprend le texte que j'ai lu et que nous allons au verset 17, on se concentre sur le verset 17, Moïse dit à Israël, « Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez pas vos jours. » Le texte nous dit, cette parole de Dieu nous dit, si ton cœur se détourne, si tu désobéis. Ce qui nous amène sur un chemin de mort, c'est une désobéissance. C'est une transgression d'un ordre de vie de Dieu. À chaque fois qu'on va transgresser un ordre de vie de Dieu, tous ces ordres de vie, tous ces commandements qu'on trouve dans la parole, on va être poussé vers la mort. On va se retrouver sur un chemin de mort, un chemin où la vie est bloquée. Et on lit que quand on est dans cette transgression, après, il y a des choses, ce que l'on appelle des dieux, d'autres dieux, la Bible dit aussi des dieux étrangers, des faux dieux, qui nous entretiennent dans cette transgression et qui veulent nous faire aller plus loin, nous pousser vers la mort, nous pousser vers la mort. Qu'est-ce que sont ces faux dieux? Pour comprendre un peu plus ce que sont ces faux dieux, il y a un autre texte que l'on peut prendre, que l'on trouve en Josué 24. C'est la fin du livre de Josué, le dernier chapitre. Et finalement, c'est une situation similaire à celle que Israël vit avec Moïse. Josué est aussi à la fin de sa vie à ce moment-là. Et il convoque les anciens d'Israël pour mettre le peuple d'Israël de nouveau devant un choix, donc Josué 24, qui est un choix de vie ou de mort, qui se présente de cette manière. Suivez l'Éternel, choisissez. Soit vous suivez l'Éternel, soit vous suivez des dieux étrangers. Et quand on va au verset 14 et 15 du chapitre 24, voilà ce que Josué dit exactement à Israël. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, c'est l'Euphrate, et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui si vous voulez servir ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ça, ce sont les dieux que servaient Abraham et ses pères, jusqu'à ce qu'Abraham rencontre l'Éternel. Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc il y avait les dieux que servaient Abraham et ses pères avant qu'Abraham rencontre l'Éternel. Il y avait les dieux aussi des Égyptiens que Israël a connus pendant des siècles d'esclavage, jusqu'à même, il commençait à oublier le Dieu de ses pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il y a les dieux des Cananéens. Donc Israël a l'embarras du choix. Mais il y a un seul vrai Dieu. Ce sont quoi ces faux dieux ? Ces faux dieux, ce sont toutes les caricatures de Dieu que nous pouvons construire en tant qu'être humain. Parce que l'homme a été coupé de Dieu. L'humanité a été coupée de Dieu. Mais elle est restée avec ce besoin de Dieu. Elle est restée avec ce besoin d'être reliée à la vie. Et Dieu lui a manqué et Dieu lui manque. Et c'est ça qui va pousser à essayer de retrouver ce besoin, de retrouver Dieu, mais pas de la bonne manière qui soit, en créant de faux dieux, en créant des religions. Finalement, ce qui nous pousse sur un chemin de mort, ce qui nous fait transgresser ces ordres de vie, et cette transgression, elle est volontaire, même inconsciemment. Ce sont toutes les croyances mensongères sur Dieu qui vont être en nous et dont on est imprégné. C'est toutes ces croyances fausses sur Dieu que je crée moi-même. Si on regarde Israël, Israël a vécu pendant des siècles en Égypte. Il commençait à oublier le Dieu de ses pères. En fait, il commençait à vivre selon les valeurs et les critères des dieux égyptiens. Et nous vivons dans nos vies selon des valeurs et des critères, et même dans l'Église, nous vivons selon des valeurs et des critères, des principes qui ne sont pas bibliques et qui transgressent les ordres de vie de Dieu. On est imprégné de cela. Donc ces faux dieux, ce sont tous ces mensonges sur Dieu. Ces faux dieux, ce sont aussi toutes les fausses compréhensions qu'on va avoir sur nous-mêmes, sur les autres, sur la manière dont les relations doivent se passer. Parce que si notre image de Dieu, elle est faussée, eh ben, l'image de nous-mêmes, l'image des autres, elle est aussi faussée parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Et ça aussi, ça va pouvoir être des faux dieux. On va y tenir. Les faux dieux, ça va être aussi, finalement, toutes ces fausses routes que l'on va prendre quand on va, dans notre vie, vivre des choses qui nous font mal, des choses qui sont des blessures. Et on n'aime pas souffrir. On n'aime pas souffrir. On veut éviter de souffrir. Et il y a des choses où on va, quand on va souffrir, on va avoir le choix de vivre ou de mourir. Et il y a des moments où on va essayer de se défendre contre cette souffrance. Mais la manière dont on va se défendre, c'est en enfouissant tout cela. Et du coup, on va être emmené sur un chemin de mort. On va prendre une fausse route. On veut absolument éviter de vivre, de revivre cette souffrance, ou de la traverser, ou de la traiter. Parce qu'on refuse finalement d'accepter notre histoire. On refuse de traverser cette souffrance qui a été enfouie profondément suite à ces blessures. On se défend de cela. Sauf que tout cela, finalement, ça va être des brèches. Ça va être des plaies qui sont infectées. Et la manière dont on se défend, c'est comme si on posait un pansement, mais sur une plaie qui, en fait, est infectée. Et ça va être des brèches pour ceux qui se cachent derrière les faux dieux et qui sont toute la puissance de l'ennemi. Tous les esprits mauvais, tous les esprits impurs, tous les esprits qui sont au service de la mort et du mal. Ils vont se servir de ça, ils vont s'accrocher à nos mensonges et à nos réactions, à ces blessures non guéries qui nous emmènent sur des fausses routes. Et tout ça, finalement, ces mensonges, ces réactions qui sont fausses à ces blessures, on va même en faire des idoles. On va les ériger en idoles parce qu'on ne veut pas esquinter l'image de nous-mêmes. Et puis, on ne veut surtout pas vivre ce qui est douloureux. Revivre ce qui a été douloureux. Surtout pas. On ne veut surtout pas souffrir. Donc on va en faire des idoles. Sauf que tout cela, eh ben, ça va nous pousser toujours plus loin sur un chemin de mort. Ça va entraver la vie et ça va même nous pousser toujours plus loin vers la mort. Régulièrement, je vous ai témoigné des insomnies que je vivais. Et ces insomnies, je les vivais depuis des années, en fait. Ça faisait depuis des années, et en fait, ça s'aggravait de plus en plus. C'était de plus en plus intense, ça devenait de plus en plus chronique. Et je pouvais, dans la semaine, avoir plein de nuits où je me réveillais à 2-3 heures du mat, je ne me rendormais pas. Et ça a été d'autant plus fort quand je suis entré dans le ministère, d'autant plus quand j'ai pris les rênes de l'Église, parce que je me retrouvais face à mes limites. C'était terriblement défiant. Et donc, du coup, ces insomnies, ça s'intensifiait. Mais en fait, pourquoi j'avais cela? C'est parce que je n'écoutais pas Dieu. C'est parce que je ne voulais pas écouter Dieu. C'est parce que je voulais tout porter. Et ça, c'était un mensonge dans ma vie. Le mensonge que je peux tout porter. Le mensonge que je dois tout porter. Le mensonge que je dois être responsable de tout. Et en fait, je me prenais pour Dieu. Je me prenais pour Dieu. Je ne voulais pas lâcher. Je ne voulais pas lâcher et ça venait de plus en plus difficile. Et du coup, à un moment, j'ai commencé à comprendre pour quelles raisons j'étais là-dedans. Ma blessure, elle remontait à très loin. Ma blessure, c'était toute la terreur et l'insécurité que j'avais vécue tout petit face à la dépression de mon père quand il perdait le contrôle de lui-même et que c'était terrifiant. Ma blessure, c'était ce sentiment d'abandon que j'avais quand ma mère d'impuissance, elle allait se réfugier dans leur chambre. Ma blessure, c'était surtout le sentiment d'impuissance dans lequel je me retrouvais. Le sentiment d'impuissance à essayer de rassurer ce père qui, du fait de la dépression, n'était pas rassurable. Et j'essayais et c'était pas possible. Et j'étais dans ce mensonge qu'il fallait être parfait, qu'il fallait absolument tout porter, qu'il fallait tout réussir. Et ça, c'était une idole dans ma vie. Mon faux Dieu, c'était le perfectionnisme. Mon faux Dieu, c'était de chercher à être parfait pour ne plus me retrouver dans une situation d'impuissance. Mon faux Dieu, c'était de ne compter que sur moi seul. Mon faux Dieu, c'était d'être fort, de refuser toute faiblesse, toute expression de faiblesse pour moi, pour ne pas réveiller ces vieilles douleurs. Tout ça, c'était mes faux dieux, sauf que j'étais sur un chemin de mort, parce que dès que je me retrouvais dans une situation d'impuissance, alors là, ça pouvait aller même jusque à ce que je sois rempli de violence. Je pouvais même être haineux envers, par exemple, la situation, envers même la personne qui, pour moi, me mettait dans cette impuissance. Et il y a eu des moments difficiles pour mon épouse et mes enfants. Et voilà, et il y avait les insomnies. Il y avait tout ce qui me réveillait parce que je devais tout porter. Et jusque dans la nuit, je portais tout, quoi. Et ça allait de mal en pis, on va dire. Voilà pour vous donner l'exemple d'un chemin de mort dans lequel j'étais, tout en ayant donné ma vie à Jésus-Christ depuis des années. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous évoque les chemins, les endroits où la vie est bloquée pour vous, où ça coince. Moi, ce qui se passait, c'est que, quand je disais que ça devenait de plus en plus intense, c'est qu'il y avait une pression entre la mort et la vie qui était toujours plus forte. Ce n'est pas dans ma prédique, mais je tiens à vous le dire. Parce qu'il y a un verset. Il y a quelque chose qui se passe entre la vie et la mort. Il y a un combat entre la vie et la mort. Et vous savez, si la mort peut bloquer la vie, elle ne peut pas détruire la vie. C'est plutôt la vie qui va consumer la mort. À un moment, Josué, il place Israël devant un choix, il les retranche dans leurs limites, vous irez lire le texte, et à un moment il leur dit, c'est au verset 20, il leur dit la conséquence qu'ils risquent de vivre s'ils choisissent les dieux étrangers, s'ils choisissent ce qui les pousse vers un chemin de mort, s'ils restent là-dedans. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel, donc c'est au verset 20, lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera pour vous faire du mal et il vous exterminera après vous avoir fait du bien. Il est question de Dieu. C'est Dieu qui se retournera pour vous faire du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit de vie, il ne supporte pas la mort. Et il va s'en prendre à tout ce qui pousse vers la mort. Et si nous sommes, nous, avec cela, si nous sommes là-dedans, eh ben ça, il s'en prendra à nous. Pas pour nous détruire, mais pour nous faire revenir. Et moi, les insomnies, c'était ça. Et Dieu qui me disait, mais écoute, écoute, arrête. Arrête maintenant de vouloir tout porter. Arrête. Stop. Je bénis le Seigneur pour ces insomnies. Alors maintenant, quand on a vu que ça coince, qu'il y a cette pression entre la vie et la mort, comment est-ce qu'on fait demi-tour? Comment est-ce qu'on fait demi-tour? Et comment est-ce qu'on choisit la vie? Et comment est-ce qu'on choisit la vie définitivement? Il y a un trajet de retour vers la vie. Et ce trajet, il va se faire en plusieurs étapes. Il va d'abord s'agir de descendre. De descendre vers ce qui nous a fait mal. D'aller voir finalement qu'est-ce qui est à la base de ce qui coince aujourd'hui. D'où c'est venu? C'est quoi la fausse route que j'ai prise? Il va s'agir de descendre vers ce qui est un mensonge dans ma vie. Qu'est-ce que je crois de Dieu? Comment? Dans quoi j'ai peut-être aussi enfermé Dieu? Dans quel mensonge j'ai enfermé Dieu? Je peux essayer de manipuler Dieu, vous savez. Dans quel mensonge je me suis enfermé, moi-même ou les autres? Ça, c'est la révélation. C'est la première chose, la révélation. Il y a trois étapes. La première étape, c'est la révélation. La révélation qui va venir par la parole de Dieu, quand je vais la méditer. Parce que là, j'ai tous les ordres de vie dont je peux m'imprégner et qui vont rencontrer toutes ces transgressions en moi. Et je vais voir où est-ce que je suis calé et où est-ce que je ne le suis pas. Si j'ouvre mon cœur, bien sûr. La révélation, elle va venir dans la prière. À partir du moment où cette prière, elle est nourrie de la parole. Elle est cohérente avec la parole. Et ça, ça veut dire que je dois de nouveau méditer la parole. La révélation, elle va venir de la part d'un autre, de quelqu'un qui peut m'aider, qui peut m'accompagner, parce qu'il pose les bonnes questions. À partir du moment où je suis d'accord de recevoir ces questions et de cheminer. C'est la révélation. La révélation qui viendra aussi quand je serai prêt à l'écouter, parce qu'il y a des choses qui font que je ne veux pas forcément entendre. Parce qu'il y a ces idoles, et je suis dans un combat. Je suis tiraillé. Puis va venir un autre temps, une fois qu'on est descendu, c'est de renoncer à ce chemin de mort qui a été dévoilé. De renoncer, et ça, ça va se faire en nommant, en mettant des mots là-dessus, en disant, mais en reconnaissant. Voilà la fausse route dans laquelle je me suis engagé. Ça m'a fait ci, ça m'a fait ça, ça m'a fait... Voilà le mal que j'ai vécu. Et du coup, voilà la réaction que j'ai eue. Mais ça, c'était une erreur, c'était une fausse route. C'était une fausse route devant toi, Seigneur. Et ça, c'est la repentance. Dans le trajet de retour vers la vie, il y a la repentance. Et enfin, une fois qu'on sera passé par là, il va s'agir de remonter. On descend, on s'arrête, on regarde et on fait vraiment demi-tour. On quitte définitivement ce chemin de mort. On décide en tout cas de le faire et on remonte. Et remonter, ça va être s'engager dans toutes les issues de vie qui vont être celles du Seigneur. Tout ce par quoi, tout ce qui va nous engager vraiment vers la vie, qui va faire qu'on s'éloigne de cette fausse route, de cette mort dans laquelle on s'était engagé. Vous savez, dans ce texte, quand Moïse dit « Je mets devant vous la vie et la mort », en fait, pour ceux qui font de l'hébreu, la vie, c'est un pluriel. C'est « Achaïm ». Les vies. Je mets devant vous les vies et la mort. Ça veut dire que la vie, elle est beaucoup plus riche que la mort et qu'il y a plein de chemins. Il y a plein de chemins dans la vie. Dans la mort, il n'y en a qu'un. Et cet engagement à découvrir ces issues de vie, à s'y engager, c'est la sanctification. Révélation, repentance, sanctification. Voilà les étapes du trajet de retour. C'est pour ça qu'on doit chercher la sanctification, les amis. Et comme je vous disais concernant mes insomnies, elles n'ont cessé de s'aggraver. Jusqu'à ce que je cède, jusqu'à ce que je lâche, je dis oh, bon, ok, c'est bon. Ma femme me disait, mais va voir le médecin. Mais non, c'est bon, ça va se régler. Puis au bout d'un moment, il a bien fallu que j'écoute. Donc j'ai commencé à écouter ma femme. Puis après, j'ai aussi écouté Dieu. C'est-à-dire que il a fallu que je revienne vers ces douleurs. Il a fallu que je revienne vers cette blessure. Il a fallu que j'accepte que j'étais dans un mensonge. Que je me dise, mais ouais, c'est vrai. Mon père, il n'était pas rassurable. Il a fallu que j'accepte le père que j'avais à ce moment-là, ce que j'avais vécu, la mère que j'avais. Il a fallu que j'accepte ce que j'étais à ce moment-là. Il a fallu que j'accepte que j'avais pris une fausse route. Et ça, ça fait mal. Ça fait mal de se dire, waouh. J'ai fait une erreur. En fait, je ne pouvais pas. Ça fait mal parce que, moi, ça m'a fait mal parce que c'était me dire, mais j'étais impuissant. Mais il a fallu l'accepter. Et à partir du moment où j'ai pu dire, oui, c'est vrai, j'étais comme ça. Là, j'ai pu nommer les choses. Et avant cela, si je suis descendu, vous savez, on a peur de descendre, mais on n'est pas tout seul. Je ne suis pas descendu tout seul. Je suis descendu avec Jésus. C'est Jésus qui m'a fait descendre. C'est Jésus qui est la parole qui me révèle les choses sur ma vie. Au travers de la méditation de la parole, au travers des personnes à un moment qui m'ont accompagné aussi sur ce chemin. Et au travers de qui Jésus s'est manifesté. Et Jésus était avec moi quand il a fallu que je nomme les choses, quand il a fallu que je reconnaisse cette erreur. Parce que Jésus est la parole. Jésus est la parole, c'est lui qui me donne les mots. Si je peux nommer, c'est parce que Jésus est là. Et Jésus est la parole. Et puis bien sûr, oui, c'est demander pardon à Dieu pour avoir pris cette fausse route. Et aujourd'hui, c'est la remontée. Je peux vous témoigner que les insomnies, je ne vais pas dire que j'en ai plus, mais c'est vraiment très différent de ce que je vivais avant. Je dors. Amen, alléluia. Alors, il y a des fois, je fais encore des petites insomnies, ça ne dure qu'une heure, je prends ma Bible, je marche, je médite la parole, puis je reviens me coucher, puis hop, je me rendors tout de suite. Waouh. Alors qu'avant, ce n'était pas ça. Et Estelle même peut vous témoigner. C'est une véritable guérison, c'est une véritable délivrance qui est toujours en cours parce que j'ai fait demi-tour. Si j'ai fait demi-tour, ce n'est pas par moi-même. Si j'ai fait demi-tour, c'est parce que Jésus a été là pour m'aider à le faire et que j'ai pris sa main, j'ai choisi la vie. C'est par lui, c'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours. Voilà ce que dit Moïse au dernier verset, au verset 20. c'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours. Et je vais juste terminer par cela. C'est une remontée qui est en cours. Alors, c'est quoi, moi, mes issues de vie ? Eh bien, c'est décider finalement d'incarner cette autorité en tant que pasteur pour laquelle j'ai été consacré, véritablement, en arrêtant de prendre les responsabilités de tout le monde, en étant dans ma responsabilité et en laissant la responsabilité du chemin de chacun, tout en étant là pour aider à prendre cette responsabilité. Et moi, je ne peux pas la prendre à la place des autres. Ça, c'est un engagement de vie. Et ça, c'est plus difficile. Ça rejoint. Ça a été d'accepter que je ne suis pas tout puissant. Et par exemple, dernièrement, avec Estelle, on a vécu quelque chose de difficile où on s'est pris la tête pour une question d'éducation d'enfants. Et moi, c'était difficile parce que entre... Alors Estelle, elle était en confrontation avec un de nos enfants. Et moi, j'étais celui qui essayait de, vous voyez, de renouer, de rassurer tout le monde, tout, comme je sais faire, quoi. Ouais, d'arranger les choses, quoi. Mais ça marchait pas. Ça marchait pas et j'avais l'impression d'être entre deux murs comme ça. Deux murs qui, où il y avait, ça s'assouplissait pas. Et à un moment, je me suis senti tellement impuissant que j'ai senti la violence monter en moi et j'ai tapé du poing sur la table. Ça, c'est arrivé il y a quelques semaines. Jour ? Bon. Il y a une semaine, quoi. Pour crier ma rage et pour crier ce devant quoi je me retrouvais. De nouveau, cette impuissance, c'était insupportable. Mais pourquoi je vous dis ça ? Ce chemin de remontée, il est fait de rechutes, les amis. Et c'est normal de chuter. Et la question, ça va être, qu'est-ce que je fais de la rechute ? Moi, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je fais du fait que là, je suis tombé ? Je reste à terre ou je me redresse et puis je continue de marcher vers la vie ? Je me saisis de ça et au contraire, ça me pousse à aller encore plus vers la vie. Je ne veux pas de cela dans ma vie. J'accepte d'être impuissant. J'accepte qu'il y a des situations où je suis impuissant. J'espère que le Saint-Esprit est en train de vous dire les chemins de mort peut-être dans lesquels vous êtes, dans lesquels voilà, nous sommes tous dans des choses où la vie est bloquée. Et Dieu veut ouvrir un chemin de vie. Il veut nous pousser vers la vie. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour nous éclairer, pour nous révéler là où ça coince. Et pourquoi ? Est-ce que tu es à l'écoute de ce qui se passe dans ta vie ? De ce que Dieu est en train de te dire, même au travers de choses qui ne sont pas agréables, qui sont inconfortables, voire qui sont douloureuses et qui te font mal ? Mais il y a quelque chose où il y a comme un entêtement. Jésus est venu pour qu'on puisse nommer ces choses. Il est venu pour nous aider à faire demi-tour. Il est mort et il est ressuscité. Et on peut demander pardon à Dieu. On peut reconnaître les choses parce qu'on sait que Dieu nous aime. Et Jésus est venu pour remonter avec nous. Il a, lui, des issues de vie. Il a des chemins de vie pour toi. Alors, qu'est-ce que je décide ce matin de nouveau ? Oui, vivre est un choix, mais est-ce que je décide, moi, de choisir la vie ? On va rentrer dans le moment de la scène maintenant. Est-ce que je suis prêt à laisser mon cœur ouvert ce matin ? Est-ce que je suis prêt à ouvrir mon cœur et à laisser la révélation de Dieu venir ? Dès aujourd'hui, mais aussi dans les temps à venir. Et vraiment qu'on puisse maintenant là se mettre à l'écoute. Qu'on puisse se placer en prière et se mettre à l'écoute. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Peut-être avant cela, je m'adresse aux personnes qui ne connaissent pas Jésus et qui sont aux prises avec la mort. Jésus veut être ta vie. Il veut te réconcilier avec la vie. Il veut te réconcilier avec Dieu. Il te dit stop, arrête maintenant. Arrête. Arrête de t'engager dans ce chemin de mort. Arrête. Ne va pas plus loin. Fais demi-tour et je suis là avec toi. Je peux venir dans ta vie. Je veux venir dans ta vie. Je suis mort pour cela et je suis ressuscité. Je suis là maintenant avec toi. Saisis ma main. Prends ma main. Fais demi-tour avec moi. Je t'engage sur le chemin. Je m'adresse aux personnes qui connaissent Jésus. Pour que nous puissions tous ouvrir nos cœurs. Qu'est-ce que Dieu me dit ? Il te montre les endroits où c'est bloqué dans ta vie. Je ne sais pas s'il va te révéler pour quelle raison il y a ça. Mais est-ce que déjà toi, tu es prêt à lui dire « Oui, révèle-moi. » Est-ce que tu es prêt à prendre la responsabilité de recevoir cette révélation et même d'aller chercher cette révélation? Est-ce que je le laisse me montrer? Et peut-être dans ce temps de Sainte-Cène, il y a des choses qui vont venir, des mots qui vont venir, des révélations qui vont venir. Et Jésus va être là pour t'aider à nommer les choses. Peut-être qu'il y a des choses même que tu sais déjà. Et mais ce n'est pas aller au bout. Et que je puisse nommer les choses avec Jésus. Ce qui m'a fait mal, ce que je n'ai pas accepté. Que je puisse identifier ce chemin de mort et décider de faire demi-tour. Et Jésus est là aussi pour nous montrer, te montrer les issues de vie qu'il a pour toi, les chemins de vie qu'il a pour toi. Que je puisse maintenant les recevoir.